Isolement et résistance.
Rawama.
Margot.
Palermo.
Lisbonne.
Acciasso e diritti.
Correia.
Lisboa.
Paola.
Hydro-Europe.
Ossini.
Polarizzazione.
Resistencia.
Solène.
Gustavo.
Zoé. Droit du peuple palestinien.
Le droit à la vie.
Alliance
migratoire. Marche des
élections. Coupable.
Autorité
du projet. Alliance migratoire.
Barcelona.
Solidarité.
Régularisation inconditionnelle.
Fragmenté et invisibilisé. Les politiques de marginalisation se déclinent aux frontières et en créent d'autres. Elles exacerbent les ruptures au sein des territoires et isolent les personnes les plus vulnérables. En même temps, la ville reste un champ de lutte entre différents acteurs. Ces dynamiques, on peut les retrouver sous différentes formes. Enfermement, barrières administratives, expulsion, ségrégation socio-spatiale. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Anna et de Paola, qui reviennent de Palerme et de Barcelone, de Solène et Mélanie, qui nous parlent de Montreuil et de Jérusalem.
Palerme est une ville frontière. Dès par sa position géographique, la Sicile est l'une des portes d'entrée en Europe des personnes migrantes qui souvent désirent continuer leur voyage. En effet, les personnes continuent à arriver, principalement par bateau et souvent après avoir traversé la Méditerranée et être passées par la Libye. Les politiques migratoires nationales et européennes s'expriment à travers l'externalisation du contrôle frontalier et l'enfermement formel et informel des personnes migrantes. L'objectif est d'empêcher le plus possible qu'elles s'installent irrégulièrement sur le territoire. Hotspots, centres de rétention, centres d'expulsion font partie d'une même logique qui consiste à identifier, filtrer et refouler. En plus, lors des dernières années, des bateaux ont été transformés en lieux d'enfermement. Cela avait déjà été le cas en 2018 avec l'annonce de la fermeture des ports fait par l'ancien ministre de l'Intérieur Matteo Salvini et le conséquent maintien de 163 personnes sur le bateau Diciotti. Aujourd'hui, la crise sanitaire n'est fait qu'exacerber cette politique et en même temps inscrit l'enfermement dans une logique d'urgence qui risque, dans le futur, de se transformer en modèle. J'ai fait référence au bateau quarantaine, c'est-à-dire des dispositifs mis en place le 12 avril 2020 pour faire face à l'arrivée des migrants pendant la situation d'urgence sanitaire. Des hommes, des femmes, des mineurs et aussi des familles entières débarqués de façon autonome à Lampedusa ou bien secourus par des ONG de sauvetage en mer sont donc contraints de passer la quarantaine sur des navires de croisière. Il s'agit d'une mesure discriminatoire puisqu'elle ne concerne que des personnes migrantes qui arrivent par bateau. Dans les derniers mois, des personnes testées positives au Covid qui étaient déjà en possession d'un titre de séjour valide ont été transférées des centres d'accueil sur le territoire à Rome ou à Milan, au bateau quarantaine. Comme pour souligner leur éternelle différence et les figer dans une position de précarité en leur rappelant que l'accès au territoire n'est jamais totalement acquis. C'est aussi une expérience traumatisante pour des personnes qui sont contraintes de rester sur des bateaux dans l'attente d'avoir des informations qui souvent n'arrivent pas. En effet, ce qui devrait être un lieu sûr se transforme en milieu carcéral. Les jeunes hommes descendus des bateaux que j'ai rencontrés à la gare de Palerme m'ont raconté l'odeur très forte qu'ils sentaient sur les bateaux et qui leur rappelait les centres de rétention en Libye. Ceux qui sont en possession des cigarettes vendent leurs paquets à 50-60 euros, témoignage d'un microcosme carcéral qui s'impose. En 2020, deux mineurs, Abou Diakite, de nationalité ivoirienne, et Abdallah Saïd, de nationalité somalienne, sont décédés à l'hôpital après avoir passé des jours sur ces bateaux sans aucune aide médicale. Un jeune Tunisien, Bilal Ben Massoud, de 22 ans, est décédé en se jetant du bateau Moby Zaza. On assiste donc à une énième tentative de normaliser l'enfermement des personnes migrantes. À côté d'une justification de type sécuritaire, depuis mars 2020, l'argument santé publique devient un autre instrument pour contrôler les mouvements migratoires et renforcer l'image du migrant comme un péril pour nos sociétés.
L'urbanisme et l'habitat sont au cœur des rapports de domination et de marginalisation. C'est le cas à Palerme, flagrant à Jérusalem, mais aussi sous d'autres formes, à Barcelone et à Montreuil.
Jérusalem cristallise énormément d'enjeux et de tensions. Donc j'ai pu observer que ce qui pouvait nous paraître neutre pouvait être un outil de division et d'oppression. Je parle des plans d'urbanisme de la municipalité de Jérusalem qui ont pour objectif de fragmenter, de diviser et à terme d'anéantir la présence palestinienne à Jérusalem. On parle même de dépalestinisation de Jérusalem. Donc l'objectif assumé de l'État israélien, de ses administrations et de sa justice ici est de modifier la composition démographique de la ville afin d'atteindre un ratio de 70% de juifs israéliens et de 30% d'arabes palestiniens. Donc ça en fait c'est le plan municipal 2000, donc qui est un plan d'urbanisme qui a posé cet objectif. Donc cette modification démographique est mise en œuvre par des politiques d'expulsion, de démolition et par une limitation du droit de construire. Les expulsions, elles sont justifiées par la création d'infrastructures hôtelières, de complexes touristiques ou par la prétendue existence de sites archéologiques. La population palestinienne n'a le droit de construire que sur 13% du territoire de Jérusalem-Est et il est pratiquement impossible pour eux d'obtenir un permis de construire. Du coup, quand ils construisent bien souvent sans permis, leurs maisons sont détruites. Et ce qui est le plus affreux en l'espèce, c'est que s'ils ne veulent pas payer ou ne peuvent pas payer la destruction de leur maison, il faut qu'ils la détruisent eux-mêmes. La dépalestinisation par la géographie, ça n'est qu'un aspect du transfert forcé de la population, donc c'est un aspect qui est au centre et qui est crucial, mais il faut aussi garder en tête qu'il y a aussi la dépalestinisation par la démographie et les discriminations quotidiennes subies par les Palestiniens. Donc un autre aspect qui me paraît intéressant ici, c'est la réécriture du récit collectif et de la mémoire par les autorités israéliennes. Donc je vous prends l'exemple des fouilles archéologiques. À Jérusalem, il y a un projet touristique israélien baptisé Cité de David, qui est dirigé par Elad, donc c'est une organisation privée de colons. Et en fait, ils creusent des tunnels sous les habitations palestiniennes du quartier, par exemple, de Silwan à Jérusalem-Est. Et de ce fait, ils mettent en danger la population palestinienne et fragilisent les infrastructures et les maisons parce qu'ils creusent à 3-4 mètres du sol. Donc non seulement on tend à expulser les habitants palestiniens à terme, mais on réécrit aussi l'histoire de Jérusalem en niant la diversité religieuse et culturelle de la ville. Selon un rapport de l'Union européenne, il s'agit d'utiliser ces projets d'archéologie comme d'outils politiques pour modifier le discours historique et pour soutenir, légitimer et étendre les colonies. Pour justifier ces politiques discriminantes, en violant encore une fois le droit international, Israël modifie la mémoire et le narratif de la ville de Jérusalem. On peut prendre l'exemple de la résistance à la dépalestinisation. 31 institutions palestiniennes ont été fermées depuis 2001. Des raids sont régulièrement menés contre les institutions palestiniennes ou leurs directeurs et directrices qui sont régulièrement arrêtés. Les noms de places et de rues sont également modifiés pour nier, effacer le patrimoine culturel palestinien et l'histoire palestinienne de la ville. Donc des quartiers sont entièrement détruits. On peut prendre l'exemple du quartier des Marocains à Jérusalem-Est qui a été détruit. Et enfin, le dernier exemple en date, mais qui n'est pas des moindres, c'est le nom des marches de la porte de Damas qui ont été renommées avec le nom de deux soldates israéliennes tuées lors d'une attaque. Donc il faut bien garder en tête que la modification de la mémoire, du narratif et de l'histoire est au cœur de la politique coloniale israélienne et au cœur des politiques coloniales en général.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل.
Au-delà de ces politiques de colonisation de la mémoire et de l'urbain, les personnes exilées et précaires connaissent elles aussi, dans nos villes, des formes de marginalisation sociale, spatiale et politique.
Périphérie de Paris, la ville de Montreuil est marquée par une histoire locale de l'industrie et des migrations. Elle compte sur son territoire une dizaine de foyers de travailleurs migrants, construits dans le contexte de dynamisme industriel qui caractérise l'après-guerre, le contexte aussi des indépendances. Ni logement ni hébergement, les foyers relèvent en fait d'un régime d'exception pour des citoyens de seconde zone issus de la colonisation, comme l'explique une militante montreuilloise. Des hommes que l'on entendait faire venir seuls et que l'on espérait voir repartir. Ces foyers des sans-famille, comme les désigne le sociologue Abdelmalek Sayad, sont gérés par des organismes souvent liés à l'État. Leurs résidents se sont pourtant réappropriés ces lieux, selon un mode de vie collectif et solidaire. Un plan de traitement consiste depuis les années 1990 à transformer les foyers en résidences sociales. Plus petites, plus chères, plus individualistes aussi, car les espaces collectifs sont exclus de ces nouvelles normes. Surtout, cette politique exclut une partie des résidents, sans contrat et parfois sans titre de séjour, désignés comme surnuméraires. En fait, les foyers sont depuis longtemps insalubres et suroccupés, ce qui devient un prétexte à leur démolition et au tri entre leurs résidents. Alors, ces derniers s'organisent pour revendiquer collectivement leurs droits. Aujourd'hui, je suis allée au Nouveau Centenaire, une résidence sociale conçue avec la participation de ses résidents, après 40 années de lutte. En 1980, un bâtiment occupé depuis 1969 par quelques 600 travailleurs maliens, sénégalais et mauritaniens est fermé pour insalubrité. Il doit être reconstruit. Les résidents s'installent alors, pour 2 ans en principe, dans des baraquements rue Nouvelle-France où ils sont laissés pour compte, car le projet de reconstruction est finalement abandonné, jusqu'à leur expulsion violente de Nouvelle-France en 1995. La raison ? Leur refus des propositions de relogement dispersées en Île-de-France, en contradiction avec les promesses qui leur avaient été faites et leur mode d'organisation collective et solidaire. Ils s'installent après 4 mois d'errance, d'occupation place de la mairie et un passage à la maison ouverte, dans un ancien local industriel privé, rue du Centenaire, où ils fondent leur association. À la faveur d'une alternance politique à la municipalité en 2008, leurs revendications sont finalement entendues. Mais aujourd'hui, plusieurs foyers montreuillois sont concernés par les plans de traitement. Le foyer Barra, emblématique, a été détruit l'année dernière. Il était habité par près de 900 personnes, dont quelques 250 occupent désormais un hangar de la rue Stalingrad. En novembre 2018, la municipalité avait réquisitionné un local inoccupé de l'État, expulsé sans surprise 1 an plus tard. L'installation dans ce nouveau squat est aussi précaire qu'incertaine, et d'autres foyers risquent de connaître le même sort. Les anciens de Barra s'organisent à leur tour, et de nouvelles dynamiques de solidarité voient le jour, pour soutenir le droit de ces personnes à un habitat digne. C'est aussi autour de Stalingrad, et à la suite de l'acte 1 de la Marche des Solidarités, le 30 mai 2020, qu'a été fondé un nouveau collectif montreuillois pour les droits des sans-papiers. Il compte plus de 1000 adhérents, résidents des principaux foyers de Montreuil, ce qui renforce leur convergence.
À Barcelone, les squats émaillent les rues, et c'est au cœur du quartier du Raval, un quartier historiquement migrant, que l'on peut trouver des ocupas emblématiques tels que El Espacio del Inmigrante et La Caracola. Ces deux espaces, en plus de représenter des lieux d'hébergement pour les personnes migrantes, sont aussi des lieux d'activité où se déroulent des rencontres, des assemblées, des événements, des rassemblements, des distributions de produits de première nécessité, du soutien et de l'accompagnement pour les personnes sans papier. Dans le prolongement de ce squat se trouve la boutique Top Manta, ouverte en 2017 par le syndicat populaire de vendeurs ambulants, qui ont créé leur propre marque de vêtements. En janvier 2021, ce centre social qui regroupait deux Ocupas et un magasin a été expulsé, ce qui a impliqué que des personnes migrantes se retrouvent à la rue et que l'activité de la boutique Top Manta soit délocalisée en dehors du centre-ville. Ce local appartient au groupe CaixaBank et il aurait pu être acheté à hauteur de 600 000 euros par la mairie de Barcelone et être cédé au collectif, mais elle n'en a pas décidé ainsi. Depuis, des négociations ont lieu entre le propriétaire, la mairie et Top Manta pour la relocalisation de leur boutique et le relogement de deux résidentes en situation de grande vulnérabilité. Selon les collectifs, il s'agit d'une stratégie de la mairie de Barcelone pour diviser les collectifs puisque d'une part, les femmes de la Caracola et l'Espacio El Inmigrante sont exclues des négociations et que d'autre part, cette expulsion va faire voler en éclats le réseau de solidarité et de collectifs qui s'était formé jusqu'alors dans ce centre. Le problème des expulsions n'est pas nouveau à Barcelone. J'ai pu observer ces derniers mois à quel point la crise du logement est présente dans la ville, et ce, en raison du fait qu'il n'existe quasiment pas en Espagne de logement social. Puisque son modèle est basé sur l'accès à la propriété à travers l'octroi de crédits hypothécaires. C'est ainsi que depuis 2008 et la crise financière, de nombreux propriétaires ne pouvant plus honorer leurs crédits ont été expulsés et les banques ont racheté leurs logements pour les revendre à des sociétés immobilières et de grands propriétaires. Depuis, les loyers ont augmenté drastiquement et Barcelone est devenue de plus en plus inaccessible. De cette manière, la lutte pour le droit au logement est devenue l'une des principales préoccupations et revendications dans la ville, et les Ocupas se sont convertis en un des modes d'action des collectifs et personnes précarisées, en plus de constituer des espaces de vie politique dans les quartiers, permettant ainsi une intersection des luttes.
Algo, hoy salí a la vida. Rondar a luchar, a ganarme la esquina en el Raval. Este es un barrio en efecto.